Il faut vous enivrer sans trêve. Et de quoi? De vin? De poésie? À votre guise.
J'aime le vin par excellence, parce que le vin est un aliment très nourrissant.
Bienvenue sur Ni Bu Ni Connu, une émission Divergence FM. Je pense que ça va parler de vin.
Et surtout du très très bon vin.
Il ne s'agira évidemment pas ici d'inciter à, mais plutôt d'aborder le vin comme une culture, un univers, un monde.
L'objectif, c'est de parler du monde viticole, qu'on rende hommage au vignoble du Languedoc, à mettre en avant les difficultés du monde agricole.
Et on n'a pas vu encore un petit coup de Bourgogne.
On va revenir à ce principe de naturalité du vin.
Il nous faut un taboulé en bois pour lui donner un petit goût boisé au vin.
C'est un plaisir très intellectuel que parce que genre, t'as envie de rester, de t'asseoir et de penser au monde en buvant ton vin.
J'aime beaucoup ça.
Salut à tous et bienvenue dans Ni Bu Ni Connu. Aujourd'hui, on vide la cave des préjugés et autres idées reçues sur le vin. Vous savez, ces fameuses phrases qu'on balance depuis toujours avec l'air sûr. Oh, blanche rouge, rien ne bouge, qui ne veut d'ailleurs strictement rien dire. Je sais pas ce que t'en penses, Mathieu.
C'est le pire.
Tu nous diras ça tout à l'heure. Et le fameux oncle ou tonton qui plisse les yeux, le daron qui hoche la tête, laisse, je m'y connais. Avec Mathieu Chastain, aujourd'hui, on prend ça à la légère, avec humour, mais on remet quand même quelques pendules à l'heure. Alors, pas de snobisme, juste de l'humour entre deux passionnés. Et au menu de nos clichés préférés, est-ce que plus un vin est vieux, meilleur il est ? Rouge sur le fromage et le camembert, les fameux maux de tête et les sulfites, est-ce que c'est bien de carafer un vieux vin? Est-ce que plus c'est cher, est-ce que le vin est meilleur? Le bio c'est mauvais? Bref, ou encore la flûte pour le champagne, ou encore l'Alsace ce ne sont que des vins sucrés, bref, on va détricoter tout ça gentiment, mais sûrement. Allez, c'est parti pour la 738e émission sur ce sujet des préjugés, mais bref, et promis, la nôtre ce sera la plus drôle. Allez, on commence, c'est parti. Alors, salut Mathieu.
Bonjour à tous.
Est-ce que tu peux déjà, avant de commencer, nous rappeler quel est ton métier d'un point de vue dégustation, initiation? Parce que tu es au quotidien au contact de personnes qui ne connaissent pas très bien le vin et du coup, j'imagine que tu dois en avoir des préjugés.
Oui, déjà tu me renvoies sur mes 12 années où j'avais mes bars à vin, et forcément on rencontrait beaucoup de monde, et également maintenant quand j'interviens pour des cavistes, mais le gros de mon métier c'est de former sur le vin et l'entrepreneuriat des gens, des professionnels et souvent des gens en reconversion, puisque le vin est une incroyable aventure humaine et je vous invite à toutes et tous nous rejoindre dans l'aventure.
Ah oui, aventure humaine, forcément, hein, aventure égale plein de préjugés, d'idées reçues. Oh, tu me diras un peu comme tous les autres secteurs du marché, le camembert, je sais pas moi, les vieux alcools ou la nourriture. Mais le vin, on a l'impression que dès qu'on s'y connaît un petit peu, ça y est, c'est l'occasion de tout balancer sur la table, quitte à dire des bêtises.
Oui, alors on en dit beaucoup, surtout peut-être quand on a un peu bu, mais chacun a son propre ressenti pour le vin, donc allez-y à votre manière, à votre sensibilité, avec votre sensibilité. Mais effectivement, même on prend beaucoup de leçons de beaucoup de gens, même si c'est nous les professionnels, donc c'est assez, assez marrant.
Alors pour rebondir sur ce que dit Mathieu, effectivement, moi aussi, hein, Willy, je suis un formateur à la dégustation pour, principalement pour les particuliers. Je fais ça depuis maintenant plus de 5 ans. Au début à Paris, où il y avait beaucoup de demandes. À Montpellier, un peu moins de demandes. Hein, c'est normal, il y a moins d'habitants que dans la capitale parisienne. Et c'est vrai que ces préjugés, je ne sais pas si tu pourras confirmer ça, mais moi je trouve c'est qu'à chaque initiation à la dégustation, peu importe l'âge des personnes qu'on va entre guillemets initier, toujours la même question sur ces idées reçues ou ces préjugés.
Oui, alors moi je trouve ça sympa puisque c'est l'occasion d'échanger, de comprendre,
moi,
d'apprendre.
Moi j'en ai marre, je te le dis tout de suite.
Non, ça c'est adorable. Par contre, effectivement, il y a beaucoup de choses qui nous font un peu pleurer et notamment si vous êtes jeune ou une femme et que vous travaillez dans le vin, et bien, bon courage à vous, puisque souvent on va vous éviter ou penser que ce n'est pas vous le ou la professionnelle.
Oui, on en profite, tu as totalement raison pour en parler. C'est vrai que les femmes dans le vin sont vraiment, vraiment, vraiment soumises aux préjugés. plus que le cliché, vraiment le préjugé, comme si elle ne pouvait pas être, entre guillemets, connaisseuse dans ce monde. Et c'est bien dommage parce qu'on peut l'attester avec Mathieu. Croyez-nous, elles en connaissent bien plus que les hommes, parfois.
Oui.
Enfin, en tout cas, que les fameux tontons et darons lors des week-ends bien arrosés en famille. Alors, on va commencer certainement par la plus grande idée reçue dans le vin. Voilà, c'est plus un vin est vieux, meilleur il est.
Ah ben, ça s'explique d'une manière, on peut l'expliquer.
On fera du thèse-antithèse. Oui, c'est vrai, oui. Et non, c'est faux. Je te laisse
oui
démarrer,
non.
Alors.
Allez, tu veux faire le oui ou le non ?
Oh bah, je te laisse faire le oui.
Allez, oui, pourquoi bon, on va parler des vins rouges, surtout, puisque historiquement, on buvait surtout beaucoup de rouges. Et les rouges, vous savez, il y a une chose qui vous fait grimacer, ce sont les tanins, l'astringence qu'ils peuvent avoir, une légère amertume. Et les tanins, avec le temps, vont s'affiner, se patiner un peu comme du cuir.
Oui. C'est quoi un tanin ? Enfin, c'est quoi les tanins ?
Les tanins, c'est ce que l'on va retrouver dans la peau des raisins rouges. Et également dans toute la partie végétale. Donc ça, c'est très important, puisqu'il faut qu'elle soit mûre, cette partie végétale. Et lorsque vous allez faire macérer la peau des raisins rouges et même la peau des raisins blancs pour faire du vin orange, vous allez extraire des tanins. Et l'élevage en fût de chêne comporte également des tanins. Donc les rouges élevés dans des fûts de chêne neufs pendant très longtemps vont être très tanniques. On va prendre l'exemple de Bordeaux, par exemple, ou des vins de la Rioja. Et c'est pour cela qu'il faut les garder longtemps pour que les tanins deviennent de plus en plus veloutés, fondus, agréables en bouche. Donc, à l'époque où on élevait les vins dans des fûts de chêne, voilà pourquoi on disait qu'un vin devait être et meilleur quand il est vieux. C'est pour cette question de tanins. Mais je pense que ce n'est pas toujours vrai. Dis-moi pourquoi.
Madame, en résumé, ça veut dire que ces vins, lorsqu'ils sont jeunes, bourrés d'énergie et de tanins, ne sont pas franchement buvables. Comment ça se passe, hein ?
Bah, pour ce style de vin-là, maintenant, vous avez énormément de vins d'appellation avec un beau terroir qui font que vous avez de très jolis tanins qui sont soyeux, fondus, veloutés, très agréables en bouche. Presque, vous ne les sentez pas. C'est juste qu'à l'époque, eh ben, on maîtrisait peut-être un peu moins ou on faisait des grosses macérations et des longs élevages.
Ok, merci Mathieu. Bah, moi, du coup, je vais faire l'antithèse, le non. Plus un vin est vieux, meilleur il est. Bah, en fait, ça dépend du style de vin. J'imagine que tu savais ce que j'allais répondre, mais voilà, je prends l'exemple des bons rosés, je prends l'exemple des blancs de soif, des rouges de soif, qui peuvent être voilà, tout légers, sans tanin, avec beaucoup de vivacité et de fraîcheur, et pour autant, ils peuvent être, et ils sont même la plupart du temps, d'excellents vins. Donc en fait, non, c'est pas une généralité, c'est pas plus un vin est vieux, meilleur il est, et comme l'a dit Mathieu, ça dépend surtout de la puissance et des tanins. Donc évidemment, un vin chargé de tanins, il peut être buvable, d'ailleurs il est même buvable, parce qu'on peut aimer les tanins bien jeunes, mais plus on l'attend, plus on le prend au bon moment, meilleur il est. Et on pense évidemment au vin de garde bordelais, au vin de garde languedocien, au vin de garde rhodanien, bref, partout en France, on peut en trouver. Si tu as quelque chose à ajouter par rapport
à ça. Moi, j'aimerais rajouter qu'il faut savoir que sur l'aromatique, hein, quand le vin évolue, il va y avoir cette micro-oxygénation, cette légère oxydation, et les arômes vont se développer. Et pour les rouges, vont tendre vers le sous-bois, le cuir, le champignon, la truffe, si on est
De la
chanceux.
Complexité tertiaire.
Exactement.
Arrive,
hein. Et généralement, ça, c'est la première idée reçue. Quand j'ouvre ce style de vin à la maison, ma mère va me dire il est madérisé. Alors que non, c'est juste l'évolution d'un vin. Donc, il faut apprécier les vins évolués. Donc, est-ce qu'il sera meilleur ? Ben, peut-être pas si vous n'appréciez pas le sous-bois, l'arôme de champignons, etc., etc.
Ok. Je rebondis sur ce que tu viens de dire avant de passer au deuxième, à la deuxième idée reçue. Voilà, ce côté madérisé, liquoreux. Moi aussi, ça m'arrive en famille ou même avec des personnes qui ne connaissent pas trop le vin, de dire quand un vin est vieux, ah, on dirait qu'il sent comme un liquoreux ou comme un vin madérisé.
Un vin
non,
cuit.
Voilà, comme un vin cuit. C'est juste qu'il a compoté pendant des années dans sa bouteille et les arômes sont tertiaires, c'est ça.
Exactement.
Alors, deuxième grande idée reçue, et celle-là, Dieu sait qu'on l'entend lors de nos initiations à la dégustation, le fameux « ce sont les sulfites qui donnent mal à la tête ». Qu'est-ce que tu peux nous en dire de ça ?
Moi, je pense que c'est déjà l'abus d'alcool hein, qui nous assèche légèrement le corps. Après,
on rappelle que l'alcool est à boire avec, modération.
Hein. Exactement, on est là pour l'apprécier, le déguster. Plus que le consommer à outrance. Non, les sulfites, peut-être pour ceux qui sont sensible ou allergique, ce qui n'est pas le cas de la plupart des gens.
Oui, ce qui est rare quand même.
Voilà, ce qui va juste l'alcool nous assèche et puis nous alcoolise également.
Alors oui, déjà faut, je pense aussi dire et définir ce qu'ont les sulfites, hein, SO2, anhydride sulfureux, c'est un additif qui rentre dans la composition des vins ou pas, parce que certains domaines, certaines vigneronnes ou certains vignerons n'en utilisent pas, mais c'est un additif, un auxiliaire alimentaire qu'on utilise également pour faire des produits surgelés, qu'on met dans des sachets de cacahuètes, bref c'est un antioxydant, antiseptique, antibactérien qu'on met du coup dans le vin. Effectivement, à très haute dose, le vin est moins digeste et ça peut se superposer au mal de crâne à cause de la déshydratation et de l'alcool. Non, voilà. Les sulfites ne donnent pas forcément mal au crâne. C'est surtout, comme tu l'as dit, l'alcool qui va déshydrater.
Oui, et puis il faut dire, prenez l'exemple d'un abricot sec. Si vous le prenez orange, c'est-à-dire pas bio, puisque les aliments bio ne contiennent pas de sulfites ajoutés, un abricot sec orange, ce sera, je ne sais pas, beaucoup plus que le vin, même de la moutarde, etc. On peut arriver jusqu'à 1600 mg de sulfites, là où le vin va être limité à 150 mg, et encore...
C'est dans le vin conventionnel, puisque
dans le vin conventionnel,
en bio, c'est 90 mg par litre, voilà. Et en biodynamie avec Déméter, par exemple, c'est 70 mg par litre. Et encore, ces doses, ce sont des doses maximales. C'est dur d'arriver.
Exactement.
À ces doses maximales.
Et puis le sulfite, vous l'avez dans énormément de E d'additifs, vous en avez énormément, vous pouvez vous amuser à regarder. Est-ce que manger un abricot sec va vous donner mal à la tête? Oui, si vous êtes sensible ou intolérant au sulfite. Donc non, le sulfite, c'est juste l'abus d'alcool qui vous dégrade un peu.
Merci Mathieu. Alors tout de suite, c'est la chronique vin et je vais vous parler du coup d'un vin avec peu de sulfite.
T'as envie de rester, de t'asseoir et de penser au monde en buvant ton vin?
J'aime beaucoup ça.
On est aujourd'hui dans le terroir des Sables, à côté d'Aigues-Mortes, enfin à Aigues-Mortes. On est avec une toute jeune vigneronne, Chloé Legge, du domaine Terre de Sable. Est-ce que tu peux nous présenter ton domaine?
Le domaine Terre de Sable est un domaine qui fait 27 hectares, en agriculture biologique depuis 26 ans. Et on fait des vins qui sont représentatifs de notre terroir de sable. Donc ça va être des vins qui vont être très frais, légers, avec toujours un petit côté iodé.
C'est quoi la particularité justement, qu'est-ce qu'on fait comme vin sur ce terroir?
Donc on fait des vins des sables, donc nos souches de vignes poussent dans du sable. C'est vraiment du sable avec un petit côté salin qui apporte après le côté iodé dans nos vins. On a un terroir géologique qui est très récent. Ce sable en fait est arrivé du Rhône il y a, je pense, à peu près 3000 ans.
Ok. Alors j'ai pu comprendre que voilà, c'est un tout jeune domaine parce que tu as repris l'exploitation avec ta famille il y a 5 ans. Donc tu es néo-vigneronne. C'est quoi le métier de néo-vigneronne alors finalement?
Être néo-vigneronne, c'est d'apprendre tous les jours, de se tromper parfois et d'essayer de rebondir le plus rapidement possible.
Et c'est quoi ton quotidien alors aujourd'hui?
On n'a pas de quotidien. Chaque jour est différent et on travaille en fonction de la météo, de la nature et de ce qu'il faut faire le plus rapidement dans le domaine.
On va repartir sur ton histoire. Donc, avant d'être vigneronne, tu habitais à Paris, tu travaillais dans le marketing. Raconte-nous ton histoire, tes études et puis le passage vers la création de ce domaine.
Alors, donc oui, j'ai fait des études dans la communication et le marketing. J'ai fini sur Montpellier, j'ai fini mon master à Londres et après j'ai travaillé sur Paris. Et il y a 5 ans, mes parents sont tombés sur ce domaine qui, on l'a appris par la suite, était à la vente. En même temps, on a eu une histoire familiale qui était un peu compliquée. Ma maman est tombée malade, donc je suis redescendue dans le sud pour être auprès d'elle. Et ça a coïncidé avec la reprise de ce domaine par ma famille. J'ai mis un doigt dedans, j'ai commencé à m'y intéresser et je suis moi aussi tombée amoureuse du domaine et de ce métier.
On est où exactement? Est-ce que tu peux nous parler d'un point de vue géographique, où on se situe, à côté de quoi et comment?
Donc le domaine est à Aigues-Mortes, juste à côté de la ville d'Aigues-Mortes et des remparts. On est donc vraiment encadré par le canal du Rhône à 7, une pinède qui va venir protéger le domaine et la ville qui est vraiment à 10 minutes. La typicité de la vigne en Camargue, c'est la première chose, on est dans les sables. Toutes nos parcelles sont entourées de roubines. Donc les roubines, c'est des petits fossés qui vont rester remplis d'eau, et ce qui nous permet de gérer la salinité de nos sols. Ces roubines sont remplies par le canal du Rhône à 7. En Camargue, et du moins dans les Vins des Sables, pour moi, c'est une alliance entre le travail dans la nature et notre travail d'homme.
Bon, on va terminer avec ta gamme. Parle-nous un peu de tes vins. Qu'est-ce que tu fais? Combien de bouteilles?
Alors, sur le domaine, on fait différentes gammes. On a une première gamme qui s'appelle la gamme des nuits, en nuit blanche, nuit bleue et nuit fauve, donc blanc, rosé, gris et rouge. Ça va être des vins qui vont être très faciles à boire, avec beaucoup de saveurs. C'est des vins d'apéritif, des vins simples, des vins à partager avec les copains. Ensuite, on a une gamme plus gastronomique avec un gris de gris. C'est un 100% grenache gris vinifié en rosé. Ensuite, on a un blanc de gris, donc 100% grenache gris vinifié en blanc. Et ensuite, en rouge qui a été élevé pendant 2 ans en fût. Et ensuite, on a des expérimentations. Donc le cépage emblématique des Vins des Sables, vous l'aurez compris, c'est le grenache gris. Et mon idée, c'est de récupérer, de travailler autour de ce grenache gris et de créer de nouvelles cuvées. C'est pour ça qu'on a un vin orange en grenache gris, un vin de voile, donc les vins caractéristiques du Jura, un grenache gris élevé en fût, et une vendange tardive aussi sur 100% grenache gris.
Ok, bah merci Chloé. On rappelle que ce domaine Terre de Sable est entièrement en bio depuis plus de 20 ans et qu'on est situé à 2 pas du centre-ville médiéval de la ville d'Aigues-Mortes. Merci à toi en tout cas.
Merci beaucoup.
T'as envie de rester, de t'asseoir et de penser au monde en buvant ton vin?
J'aime beaucoup ça.
On est de retour avec Mathieu pour parler des préjugés, des idées reçues sur le vin, et on va attaquer notre troisième plus grande idée reçue. C'est plus un vin est cher, meilleur il est. Qu'est-ce que tu en penses alors de ça?
Alors j'ai envie de dire oui, parce que parfois je vends du vin, donc ça m'intéresse. Mais non, déjà, chacun on a notre propre sensibilité, nos propres préférences. Donc tant mieux pour vous si vous aimez les vins très accessibles.
Mais c'est un peu une valeur sûre quand même, quand on va chez le caviste ou au supermarché, de se dire ouais, si on met 15€, 20€, 25€, c'est meilleur qu'un vin à 5€.
Ça va être un vin différent.
Ça y est, je l'ai eu là, il est en train de bugger.
Ça va être un vin différent. Généralement, on va avoir un travail qui va être supplémentaire. Il y a un travail à la vigne. Il faut savoir que le vin, c'est quand même la seule boisson où vous dépendez du raisin, de la nature. Vous n'achetez pas des céréales pour les fermenter, les distiller. Donc, il faut vraiment...
Oui, il y a une matière première, en effet.
Oui, il y a déjà cette matière première. Et parfois, il faut un soin... Il y a un soin extrême. Parfois, on va presque trier grain par grain pour prendre les meilleurs. On va les bichonner. Donc, il y a toujours un travail qui influe sur le prix.
Alors, il y a ce travail, effectivement, à la vigne, le travail au chai. Il y a aussi, effectivement, peut-être la notoriété du domaine et de l'appellation qui font qu'un vin est cher. Moi, je vais parler de l'inverse. Cher égale meilleur. Pas forcément, parce que à l'inverse, on peut très bien aller, c'est un conseil que je donne très souvent moi à mes élèves, aller acheter un vin qui est issu d'un territoire, d'un terroir, bref, d'une appellation en fait méconnue. Et généralement, les vins haut de gamme élaborés par ces vignerons et ces vignerons sur les terroirs méconnus sont quasiment au même prix qu'un entrée de gamme en Bourgogne ou à Bordeaux, par exemple, ou en Côte-Rôtie, je ne sais où. Et c'est un gage pas de qualité, mais en tout cas, ça remet en cause ce côté cher égale meilleur. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça.
Nous, on a la chance de goûter des milliers de vins par an, donc on arrive à trouver les meilleurs rapports qualité-prix dans un sens, mais bien évidemment, le vin est soumis à l'offre, à la demande, au prestige, puis on fait tous des actes d'achat par rapport au prestige. Parfois, on ne va pas offrir à quelqu'un un vin pas cher, puisque ce serait mal vu, alors que peut-être c'est un vin qui est incroyable.
Donc tu penses que toi, le vin de la Romanée Conti à 5500€ que tu trouves chez certains cavistes, C'est cher, c'est pas cher?
Alors, je ne l'ai pas goûté.
Si je ne l'ai jamais goûté non plus.
Si vous voulez m'inviter à le déguster. J'ai eu goûté et servi pour des événements prestigieux, des très grands vins. Il faut être parfois le déguster au calme, à bonne température. Donc, il y a beaucoup de choses. Ce que je dis souvent, c'est que vous avez les vins que je servais dans les bars à vins, où vous êtes là pour passer un bon moment avec des amis, des moments un petit peu agités. Et puis, il y a des moments où il ne faudra surtout pas inviter vos amis excités, puisqu'il faut plus apprécier le vin calmement et presque intellectuellement. Donc, bien sûr, il y a toutes sortes de vins. Il y a plein de vins différents et on peut trouver son plaisir. Moi, je dis toujours que c'est l'échantillon de mes humeurs, ma cave. Je vais y piocher suivant mes humeurs, avec qui je vais le boire, etc. Et parfois, un petit vin à moins de 10 euros fait...
Je te vois bien avec un cigare à la bouche et...
Non, mais je ne te ramènerai pas des vins chers.
Tout nu sous une peau de bête. Bref. Alors, il faut carafer les vieux vins. C'est vrai que ça, on en entend partout. Même moi, avant de entre guillemets, de m'être initié au vin, c'est quelque chose que je pensais vrai. Il faut carafer les vieux vins.
Eh ben ça, c'est ce que l'on voit. Je pense qu'on viendra aussi beaucoup à tout ce qui est visuel.
Ouais, c'est stylé de carafer un vieux vin.
Voilà, visuel, on l'a vu.
Mais c'est faux,
dans les
d'accord.
films, c'est totalement faux, puisque le vin, lorsqu'il va vieillir en bouteille, il y a un léger échange avec l'oxygène qui, au fil des années, va l'oxyder, le faire vieillir. On revient à tout à l'heure. Le faire vieillir, et ce vin va évoluer. En fait, il a une durée de vie comme nous, il va évoluer plus ou moins rapidement. Et à un moment donné, il va atteindre
son apogée. Oui, il s'oxygène dans la bouteille, même s'il y a un bouchon.
Voilà, il s'oxygène. Et après des années, des dizaines d'années, ou des centaines d'années pour certains, il se sera assez oxygéné. Et si vous le carafez, donc dans ces carafes un peu plates, avec beaucoup de contact avec l'oxygène, vous allez tout simplement le tuer. Hein, il sera... L'essouffler, vous allez l'essouffler.
On a trop d'oxygénation d'un seul coup. Et c'est bête quand on ouvre un vin qui a 20 ans de bouteille, qu'on a certainement acheté d'ailleurs assez cher et qui en plus aura pris de la valeur.
Généralement, on choisit un peu le vin de notre millésime à nous.
T'es dans l'année 49, 50 toi,
Moi, je suis en 86, une année où les bouteilles sont phosphorescentes la nuit.
Et puis, il y a une très belle année dans le vin, je crois, il me semble, 86.
Ouais, parce que
on y connaît, mais...
Non, tout simplement, les vins évoluent, on peut les décanter pour enlever les dépôts. Mais attention, si vraiment vous buvez un vin très vieux, vous n'aurez qu'une dizaine ou une vingtaine de minutes pour l'apprécier. Après, il va s'effacer et il ne donnera plus rien. Donc, si vous le décarafez, vous allez juste...
Carafe à décanter
finir
versus
sa
carafe
vie... précipitamment. Donc attention, on manipule avec soin les vieux millésimes. C'est comme les personnes, les personnes âgées, on les manipule avec soin et on s'essouffle beaucoup plus vite.
Et je rebondis sur ce que dit Mathieu. Les vins à carafer, ce sont plus d'ailleurs les vins jeunes, d'accord ? Donc un vin avec assez costaud, un vin qui n'aura jamais vu l'oxygène. C'est bien, lui, aujourd'hui on est en 2026, si un vin il est de 2024, 2023, 2022, qu'on vous a dit à la cave ou au domaine que c'était un vin quand même assez, assez costaud avec des tanins et tout le touti, lui, au contraire, vous l'ouvrez, vous l'aérez 2-3 heures, voire même vous le passez dans une très belle carafe, ça fera le taf. On enchaîne avec une autre idée reçue, ou plutôt un préjugé là-dessus, c'est le fameux vin rouge avec le fromage. Alors là-dessus, je sais que je ne vais pas me faire des amis, mais on parle souvent de goût, mais d'une manière générale, on a toujours associé le vin rouge avec le camembert, le comté. Est-ce que tu peux nous parler de ce préjugé ?
C'est un préjugé, puisqu'on l'a toujours vu, finalement, c'est comme tous ces préjugés, presque on a une photo dans notre esprit qui nous marque avec... le franchouillard, les bretelles, la baguette, le béret et le camembert.
Je vois bien de quoi tu parles.
C'est la, alors peut-être que ce préjugé, maintenant, vous l'avez vu dans Emily in Paris ou d'autres séries. Historiquement, on ouvrait une bouteille de rouge puisqu'on consommait surtout du rouge et on faisait le repas avec. Et forcément, à la fin du repas, on arrivait sur le fromage. Du coup, on consommait toujours du rouge avec du fromage.
Et je rebondis sur ce que tu dis. aussi, pourquoi en fait c'est toujours le rouge qu'on met sur le fromage, c'est qu'historiquement, voilà, les vins rouges, il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup dans l'Orléanais, beaucoup dans l'Auxerrois, beaucoup dans le bassin parisien, qui étaient les trois plus grandes régions avant la crise du phylloxéra. Et en fait, les vins à cette époque-là, on ne savait pas bien les fermenter à 100%. On avait des vins qui titraient à 7, 8, 9 degrés avec beaucoup d'acidité et beaucoup de sucre aussi encore résiduel. Et forcément, qui dit sucre pardon, et acidité, bah, on le marie très bien avec la charcute, avec le fromage et le fameux, la fameuse baguette qui a traîné sous les bras pendant quelques heures. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Beaucoup de sommeliers, et plutôt même des meilleurs sommeliers de France ou de Navarre, vont nous dire que ce qui se marie le mieux avec les fromages, et peu importe le fromage, que ce soit des fromages pâte pressée, cuite et compagnie, bah, ce sont les vins blancs. Est-ce que d'ailleurs tu peux nous parler un peu d'association entre vin blanc et fromage? Qu'est-ce que tu aimes toi par exemple?
L'accord qui va toujours marcher, ce sera l'accord terroir. Donc vous ne ferez jamais de faute sur l'accord terroir.
Par exemple, un vin blanc du Jura avec un Comté ou un Babybel.
Ouais, exactement. Ça fait fureur aux États-Unis, le Babybel.
Non, mais tu as raison. Il faut s'imaginer que la vache ou la brebis, elle a brouté de l'herbe.
C'est le terroir.
Voilà, c'est le terroir.
Avec le terroir, les mêmes savoir-faire, dans un sens. Il faut savoir quand même que le vin fermente, le fromage fermente. Il y a énormément de points communs entre le vin et le fromage. L'affinage, l'égouttage, etc. Donc... et on peut, l'accord terroir est toujours la meilleure solution, j'ai envie de dire.
Donc, petit fromage de chèvre, je ne sais pas, un crottin de chavignol avec un Sancerre blanc, ça fait le taf. Un Osso Irati avec un vin de Jurançon, ça fait le taf.
Incroyable.
C'est, on peut pas, ça ne s'invente pas.
On peut, près de chez nous, on peut citer un Picpoul de Pinet avec les huîtres de Bouzigues. Et si vous voulez...
les huîtres, c'est un fromage?
Non, c'est pas rigolo. Je sors du fromage, mais j'y reviens. Et si vous voulez épater la galerie, vous pouvez aller avec ce Picpoul de Pinet, donc un fromage avec une très grande vivacité. Vous pouvez aller, par exemple, sur un Brillat Savarin ou un Barisien, qui est un fromage
déjà
triple
fait, très
crème.
Bon, très, très bon.
Très, 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 très gras. Incroyable. Et l'acidité va venir s'opposer au gras. Et vous allez même perdre cette acidité. Donc, tout va se compléter. C'est vraiment incroyable. Il faut malheureusement ouvrir beaucoup de bouteilles avec une très grande planche de fromage, ce que l'on ne fait pas puisque historiquement, on ouvre une bouteille pour le repas.
Allez, on va attaquer ensemble le dernier préjugé ou la dernière grande idée reçue, puisque malheureusement, nous manquons de temps, mais peut-être qu'on fera une prochaine émission, encore une fois, sur ces idées reçues dans les mois qui arrivent. Laquelle je vais sélectionner, c'est un peu compliqué, mais on va dire, allez, la flûte ou la coupe sur le champagne. Ça, je l'entends à chaque fois. C'est totalement aberrant de boire un champagne dans une flûte.
C'est festif et je le tolère si vous avez de très jolies flûtes.
Non mais on est d'accord que d'un point de vue purement dégustation, c'est pas forcément ce qu'il y a de conseillé. De...
Non, puisque aromatiquement vous allez rien sentir, c'est toujours bien d'avoir des buvants qui se referment pour concentrer les arômes, prendre du plaisir sur l'aromatique et puis au niveau gustatif, si vous regardez bien, vous allez avoir quand même les bulles qui vont porter une certaine acidité, une certaine amertume. Et c'est bien d'avoir un verre plus évasé pour que le vin s'ouvre et que l'on apprécie beaucoup mieux. Surtout d'avoir des jolis verres avec un buvant assez fin.
Oui, puis plus la flûte est longue, plus en fait la bulle se charge de gaz carbonique et plus la bulle est présente en bouche. Et c'est dommage pour un super bon champagne de le gâcher finalement dans ce genre de buvant, quoi.
La verrerie, la température, c'est un combat quotidien avec tous les professionnels pour que l'on puisse servir dans les meilleures conditions nos clients, nos amis, avec une verrerie adaptée et une température adaptée. Donc la flûte est un contenant festif que l'on peut garder pour les festivités.
Et à l'inverse, pareil, on parle de flûte, mais il y a aussi l'autre style de verre en champagne. Comment il s'appelle le fameux...
La coupe
de champagne, voilà, et pas la coupe du monde, la coupe de champagne. Et cette coupe de champagne, pareil, je déconseille fortement à toutes et à tous de boire votre effervescent là-dedans, puisque Alors, pour la bulle, il n'y a pas spécialement de problème, mais en revanche, vous n'allez pas sentir grand-chose, sachant que quand même, il y a un registre en termes d'odeur assez cool quand même dans le champagne. Tu peux nous en parler ?
C'est tout l'évolution, toute la prise de mousse, on aura des arômes un peu plus évolutifs, secondaires, tertiaires, tout ce qui est brioché, effectivement, surtout avec les chardonnays, les jolis pinots. Donc, tous les effervescents et un registre aromatique qui est très intéressant. Il y a ce relief qu'apporte la bulle, donc il faut vraiment la bichonner. Alors souvent, quand on va servir les anglo-saxons, on va leur demander « flute » or « glass of wine ». Et à force de quelques verres où ils reviennent et qu'ils ont sélectionné « glass of wine », ils sont heureux. Et on leur demande pourquoi et ils nous disent juste « more alcool ».
Bon, on va répéter une dernière fois que l'alcool est à boire avec modération, mais vous l'avez compris. Le champagne ou le crémant, c'est toujours dans un verre de vin normal, un verre de vin lambda, un glass of wine, et ça fera l'affaire. On aurait même pu terminer notre émission en parlant de ce fameux adage dégueulasse qui dit que mieux vaut un bon crémant qu'un mauvais champagne. C'est totalement du bidon, ça aussi.
Ouais, c'est pour les Aveyronnais comme moi, où on ne veut pas mettre d'argent. Bien évidemment, il y a des vins incroyables et il faut... les tester, il faut aller dans les salons, vous pouvez en goûter plusieurs pour un prix très raisonnable. Aller à la découverte des vins, des vignerons, des salons, et petit à petit,
allez voir les cavistes,
et vous trouverez votre Madeleine de Proust, et quel que soit le prix.
Bon, et en parlant de Proust, non, c'est nul ce que je vais dire, mais merci en tout cas Mathieu pour cette émission.
Merci
à toutes et à tous de nous écouter, de soutenir cette nouvelle émission Ni Bu Ni Connu sur Divergence FM. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.
Il faut vous enivrer sans trêve. Et de quoi ? De vin ? De poésie ? À votre guise.
J'aime le vin par excellence, parce que le vin est un aliment très nourrissant.
Bienvenue sur Ni Bu Ni Connu, une émission Divergence FM. Je pense que ça va parler de vin.
Et surtout du très très bon vin.
Il ne s'agira évidemment pas ici d'inciter à, mais plutôt d'aborder le vin comme une culture, un univers, un monde.
L'objectif c'est de parler du monde viticole, qu'on rende hommage au vignoble du Languedoc, mettre en avant les difficultés du monde agricole.
Et on n'a pas vu encore un petit coup de Bourgogne.
On va revenir à ce principe de naturalité du vin.
Il nous faut un tabouret en bois pour lui donner un petit goût boisé au vin.
C'est un plaisir très intellectuel parce que t'as envie de rester, de t'asseoir et de penser au monde en buvant ton vin.
J'aime beaucoup ça. Moi.